Gloire à Dieu. Amen. Amen, c'est vrai, c'est juste. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, disait Antoine. C'est vrai, c'est l'expérience que vous pouvez faire ce soir si vous regardez vers Jésus. Bien des hommes et des femmes ont suivi Jésus. Lorsqu'on lit les évangiles en particulier, Jésus-Christ se révèle dans sa parole, dans les évangiles. Des gens le suivent de près et de loin, et chacun le suit pas avec la même motivation, ni avec le même regard. Juste pour vous lire quelques versets, pour introduire ces moments, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 23, il est écrit ceci, « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. » Et on peut être rayonnant de joie, être guéri par Jésus, trouver la guérison, ça marche, ça passe par là. Et une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de Judée et d'au-delà du Jourdain. Parce que Jésus guérit, parce que Jésus parle au cœur des hommes et des femmes qui le suivent, la foule augmente. Ils sont, à la multiplication des pains, près de 5000 hommes. En réalité, ils sont beaucoup plus que cela. Et ces gens qui suivent Jésus, ils le suivent et au final, ils n'auront pas la même vision, le même regard sur Jésus. Chacun aura son point de vue. Et si vous lisiez les chapitres 8, 9 de l'évangile de Matthieu, certains seront dans l'étonnement, voyant Jésus, certains même seront effrayés à voir les miracles, à voir ce que fait Jésus, d'autres seront émerveillés, d'autres seront endurcis, et dire que c'est par des démons que le Seigneur chasse d'autres démons, enfin. Et certains y verront quelque chose d'étrange. Question, et vous? Comment voyez-vous Jésus ce soir? Trouvez-vous étrange de parler de Jésus en 2018 ou aurez-vous le courage de reconnaître que Jésus est la seule chose qui manque à ma vie? Que si ma vie était un puzzle, que c'est la pièce qui manque à ce puzzle. Et ce puzzle, c'est Jésus. Quelque chose d'étrange, c'est de cette catégorie que l'on va s'intéresser ce soir dans l'évangile de Luc, qu'on va lire ensemble, chapitre 5. Verset 26 est écrit ceci, après avoir vu un homme paralysé marcher, ils diront ceci, tous, verset 26 du chapitre 5, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Il faut bien se l'avouer. Aujourd'hui, c'est comme ça que l'on voit le christianisme. Pour beaucoup, c'est quelque chose d'étrange, d'étonnant pour les autres, sauf pour celui qui a décidé de découvrir sincèrement qui est Jésus. Il comprendra que Jésus n'est pas si étrange que cela, que parler de Jésus, même en 2018, même si on le faisait déjà des milliers d'années avant, n'est pas quelque chose d'étrange, mais au contraire, Jésus se présente aux hommes comme un père, comme un berger dans d'autres textes, qui se met à la portée de ses enfants pour les réconforter, pour lui faire du bien. De Dieu qui se présente ce soir, pas un Dieu qui se présente pour vous condamner, mais au contraire pour vous pardonner. La raison pour laquelle nous partageons le message de l'Évangile, c'est qu'afin que vous puissiez non pas voir, retenir non pas quelque chose d'étonnant ni d'effrayant, mais que vous puissiez découvrir personnellement, vous faire une opinion personnelle de qui est Jésus, à savoir qu'il est le Fils de Dieu. On l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. C'est celui qui sauve le pécheur. On va lire ces quelques versets de l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 17, ensemble. En tout cas, je vais vous faire la lecture si vous n'avez pas la Bible. Il écrit ceci, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Les pharisiens et des docteurs de la loi était là, assis, venu de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une couverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Nous avons vu aujourd'hui quelque chose d'étrange. Question que nous allons nous poser ce soir est celle-ci. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont vu d'étrange ? La première chose que j'ai pu noter est celle-ci. Jésus est présenté comme un homme qui enseigne. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange dans cela, me diriez-vous ? Jésus est présenté comme quelqu'un qui n'a pas vécu dans une famille d'élite. Son père était charpentier. Il n'a pas vécu avec les enseignants ni les docteurs de la loi et pourtant il enseigne. Est-ce que c'est possible ? Pourtant, imaginez une personne n'ayant pas fait d'études supérieures enseigner à des professeurs et des enseignants. C'est rare. Mais Jésus n'est pas quelqu'un comme les autres. Quelqu'un de différent qui dépasse la logique. Déjà à l'âge de 12 ans, on parle de lui de cette façon alors qu'il est dans le temple de Jérusalem. Décrit ceci, je vous fais la lecture. Jésus assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient ceci frappés de son intelligence et de ses réponses. Dans un autre texte, on parle de Jésus de cette façon. S'étant rendu dans sa patrie, Jésus enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent était étonné et disait « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? » Dit autrement, c'est ce Jésus que nous entendons là, c'est quelqu'un des nôtres, c'est un juif, c'est quelqu'un de notre nation et pourtant lorsque nous l'entendons, ce n'est plus le même homme que nous entendons. Il y a quelque chose qui se passe, il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les autres. La question est pourquoi ? Pourquoi lorsque Jésus parle, il y a quelque chose qui se passe, qu'on a envie d'entendre la parole de Dieu ? Parce que ce que Jésus dit, son enseignement, n'est pas un enseignement lié de sa culture ni de l'intelligence des hommes, mais parce que ce qu'il dit vient d'en haut. Vient de la part de Dieu. Il est écrit ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 49. Je vous fais la lecture. Il est écrit ceci, Jésus qui parle, qui dit que « Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis. » comme le Père me les a dites. Le message de Jésus vient d'en haut, il vient exactement de la bouche de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous partageons la parole de Dieu ce soir. Parce que c'est un message qui ne vient pas de la bouche d'un homme, mais de la bouche de Dieu lui-même, qui parle aux hommes, les appelle à changer de comportement, à se repentir,
à le rencontrer, à faire la paix avec lui. Prenez le temps, vous qui entendez ce partage, de méditer sa parole, de lire la Bible, prenez-y le temps, lire la parole de Dieu afin de connaître mieux Dieu, connaître Dieu intellectuellement, oui, mais le connaître personnellement. Que votre conscience, votre cœur puisse être convaincu que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre que Jésus. Nul ne vient au Père que par lui. Deuxième chose étrange que j'ai pu noter, qu'est-ce que la foule a pu noter comme d'étrange ? Deuxièmement, un homme invalide descendre par le toit d'une maison. Un homme paralysé est couché sur un lit. De toute évidence, la maladie de cet homme est grave. À l'époque, il n'y a pas de fauteuil roulant. Il n'y a pas d'association de gens pour aider d'autres à sortir dans la rue. Et il faut se débrouiller seul, être souvent dépendant d'autres personnes. C'est la situation de cette personne paralysée. Et à l'époque, les infirmes, les hommes et femmes malades, paralysés, lépreux, aveugles et autres, ils avaient, j'allais dire, ce désavantage d'être stigmatisés. On pensait à l'époque que s'il est comme ça, s'il est malade, c'est à cause de son péché. S'il est aveugle, s'il est paralysé, c'est parce que c'est un homme pécheur. J'ai pu noter ça, ceci, dans le livre de Job, chapitre 8, verset 4. L'un des compagnons de Job dira ceci. Alors que Job a perdu ses enfants tragiquement, ses fils, il dira ceci, Job, chapitre 8, verset 4. « Si tes fils ont péché contre Dieu, contre lui, Dieu les a livrés à leur péché. » C'est comme ça que les gens pensaient. Est-ce naturel ou pas? Mais Dieu ne condamne pas les hommes de façon au hasard, comme ça. Et c'est comme ça, certainement a-t-il pensé ceci, que la maladie est une malédiction. C'est comme ça, il faut vivre avec. Il aurait pu continuer à s'acharner et puis à vivre avec sa paralysie. Mais il va relever la tête. Et quel que soit ce que les autres pensent, relevez la tête vous aussi. Il aurait pu rester, et puis il y a cette foule qui s'est réunie autour de la maison et rester à la porte. Si je ne peux pas rentrer par la porte, si je ne peux pas même passer par la fenêtre, que faut-il faire? Rentrons avec ses amis qui l'accompagnent, rentrons à la maison. Et non, il va insister. Passons par le toit. Passons par le toit. Il fallait y croire de tout son cœur pour faire une brèche dans le toit, pour entrer et rejoindre Jésus avec la civière. C'est Jonathan qui en parlait cet après-midi. Personne d'entre eux ne s'est dit « qui va réparer le toit ?» Mais ils se sont tous dit « on va y aller, on va rejoindre Jésus. » Quitte à bouleverser les obstacles, et même si la maladie est un obstacle, la déception, la dépression est un obstacle, même si elle est présente dans votre vie, il y a un temps où il faut bouger les obstacles et quitte à passer par le toit, rejoindre Jésus, faire un acte de foi comme ces hommes, déposer la maladie, déposer le découragement et la déception aux pieds de Jésus. Et lui fera le reste. Et ceux qui ont regardé la scène au loin, ils ont tous dû se dire, ces hommes religieux et autres, qu'est-ce qu'ils font là? Ça, c'est quelque chose d'étrange. Ils auraient pu attendre leur tour et non, ils ont préféré démolir le toit pour rejoindre Jésus. Ils ont dû se dire, ça, c'est quelque chose d'étrange, quelque chose même de gâchis, d'inutile. N'attendez pas. Faire la rencontre de Jésus est peut-être la seule chose qui manque à votre vie pour être sauvé, pour être guéri. Il y a une solution. La solution se trouve non pas dans une technique ni dans une méthode, mais elle se trouve dans une personne, et cette personne s'appelle Jésus. Jésus dira ceci, que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Question est comment faire, me diriez-vous? C'est simple. C'est simple, puisque comment le faire si Jésus, je ne peux pas le voir, si physiquement, il faut bien se l'avouer, vous ne le verrez pas. Dans certains lieux, il y a bien des statues, mais Mais Jésus, comment faire? C'est simple, demandez-le-lui. Par une simple prière, « Seigneur, viens à mon secours ». Si ce Dieu que nous prêchons inlassablement chaque semaine, plusieurs fois par semaine, existe, demandez-le-lui. Faites cet acte de foi, demandez-le-lui, « Seigneur, sauve-moi ». Et à coup sûr, il viendra vous répondre. Troisièmement, qu'est-ce qui a été étrange? Qu'est-ce qui était étrange pour cette foule? Un homme qui pardonne les péchés. Verset 20 de notre texte, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Un homme qui pardonne les péchés. Ils le diront plus tard, « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» diront-ils. C'est vrai, Jésus pardonne les péchés. Seul Dieu pardonne les péchés. C'est ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Et pour eux, c'est quelque chose d'étrange. Comment un homme peut-il pardonner les péchés? Le dire, c'est facile. N'importe qui peut le dire, « Je te pardonne de tes péchés. » Et pourtant, ce n'est pas aussi simple que cela. C'est aussi reconnaître que je suis un pécheur, que je suis un homme pécheur, que je suis quelqu'un d'imparfait malgré mes bonnes œuvres. Pour une personne, c'est déjà quelque chose d'étrange. La Bible dit ceci, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous sont péchés et sont privés de la présence de Dieu. Tous sont péchés, sans exception. Que vous soyez bon, ou bonne, généreux, que vous ayez, comme on dit, le cœur dans la main et que vous ayez le courage de distribuer votre argent aux autres. Mais si Jésus est en dehors de votre vie, de votre cœur, il vous manque tout de même le plus important de votre vie, de la vie. Ce qui nous prive de la présence de Dieu, c'est le péché. Et le péché qui correspond à avoir rejeté Dieu, avoir mis Jésus à la porte, c'est le péché qui nous sépare de la présence de Dieu. Il y a comme une barrière, un obstacle qui va se mettre entre Dieu et nous. Et c'est le péché. Péché qui nous condamne à une mort certaine, inévitable. Car tous sont péchés et sont privés de la présence de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que à ceux-là, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu vous pardonne, nous pardonne. Quel que soit l'état de votre cœur, la noirceur de votre péché, Dieu vous pardonne. Et il y a ceci, quelque chose de merveilleux, c'est que le pardon est gratuit. C'est vrai, c'est gratuit. La vie éternelle est gratuite. Et c'est vrai qu'on se réjouit lorsque sur une table, il y a cette pancarte « Servez-vous » et encore plus lorsque c'est écrit « C'est gratuit », on se réjouit. C'est vrai, alors servez-vous sans hésiter. Le salut, la vie éternelle que donne Dieu est gratuit. Aussi, vous n'avez pas besoin à hésiter, ni à faire une quelconque œuvre, ni à faire, vous n'avez pas besoin d'aller faire un pèlerinage dans un lieu quelconque, mais simplement de le demander par une simple prière. Demandez à Jésus et vous recevrez le pardon de vos péchés alors que nous méritions la mort. Est écrit ceci dans Colossiens chapitre 2 verset 14. Il, Jésus, a effacé l'acte. Il y avait déjà un acte qui nous condamnait. Chacun de nous avait déjà cette feuille avec écrit, avec nos noms, prénoms condamnés. Mais il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé, comment? En le clouant sur la croix. Quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire. C'est vrai, je le disais cet après-midi, si on pouvait payer notre dette, la dette de notre péché, on l'aurait fait. Je l'aurais fait pour mes proches, pour mes enfants, même s'il fallait donner un rein pour payer, on l'aurait fait. Mais c'est encore plus simple que cela. Le pardon, le salut est gratuit, il n'y a qu'à le saisir par la foi en Jésus. Et puis, le dernier point, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Un homme qui reçoit le pardon par la foi. C'est aussi une chose étrange que la foule va noter. Un homme qui reçoit le pardon par la foi. Au verset 20 de notre texte, voyant leur foi. La foi de qui? La foi de ces quatre hommes? Ils ont dû se dire « c'est une folie, mais ma foi, pourquoi pas, allons-y, allons-y ». La foi de cet homme aussi, cet homme paralytique, il a dû se dire « c'est la seule solution qui me reste, allons-y ». Allons-y ensemble, je n'ai pas le courage d'y aller, allons-y ensemble. Peut-être qu'il y en a quelqu'un, y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas le courage ? Allez-y, allez-y. L'homme paralysé aurait pu garder sa maladie, mais il va aller à la rencontre de Jésus, faire cette rencontre personnelle qu'il avait besoin. Trouver la guérison est quelque chose que je souhaite à chacun de nous. Être guéri, être touché par Jésus, je nous le souhaite. Maintenant, il faut le dire, à quoi bon être guéri ? À quoi bon avoir un corps guéri et une âme malade, et son âme malade ? À quoi bon être guéri ? À quoi bon guérir et finir en enfer ? Jésus parle de là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Ça aurait été dommage que Jésus guérisse cet homme et que la journée n'est pas terminée, que cet homme se retrouve au bistrot à fêter sa guérison avec des amis. Ce serait dommage s'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de changement de comportement. Être guéri ne sert à rien. Nous avons pu entendre témoignages d'hommes et de femmes qui ont pu être guéris de maladies graves et finalement passer à côté du plus important de leur vie, qui est de changer. De changer, changer de comportement, se repentir. La remarque est celle-ci, est la même aussi pour chacun de nous. Au verset 23, il est écrit ceci, « Lequel est le plus aisé de dire « tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche ». Le commun des mortels, je l'ai déjà dit, le plus facile est de dire « lève-toi et... » Enfin, le plus facile est de dire « tes péchés te sont pardonnés ». Ce n'est pas si compliqué à dire. Mais « lève-toi et marche », pour chacun de nous, c'est, on peut le dire, c'est vrai, mais on peut se trouver aussi mal à l'aise, surtout si ça ne marche pas. Mais alors, il est écrit ceci au psaume 33, verset 9, il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. C'est quand Jésus parle. Jésus n'est pas quelqu'un d'ordinaire, il faut bien se l'avouer. Mais alors, pour autant, le plus difficile pour Jésus n'était pas de guérir cette personne. Mais le plus difficile, c'était de pardonner ses péchés. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pour pardonner son péché, il a fallu que quelqu'un paie à la place du paralytique. Il a fallu que quelqu'un paie à la place, à notre place. Que vous le vouliez ou non, nous sommes pécheurs. Pécheurs et privés de la présence de Dieu, nous sommes condamnés. L'apôtre Paul dira ceci, que le salaire du péché, c'est la mort, une mort spirituelle, oui, une mort, une vie séparée de la présence de Dieu pour l'éternité. Mais le don de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est être privé, être séparé de Dieu. L'homme est séparé de Dieu. Et ce qui le sépare, c'est le péché. Il y a cette barrière infranchissable qui nous sépare de la présence de Dieu. J'avais cette image lorsque deux personnes sont, lorsqu'il y a un différend entre deux personnes. Il y a avec le temps une chose qui s'installe, il y a une séparation qui s'installe. Même on a cette expression, on va couper les ponts, on finit par couper les ponts. Lorsqu'il y a un différend, lorsque deux personnes se fâchent, nous ne sommes pas fâchés avec Dieu quand même, parce que Dieu est venu à notre rencontre pour nous pardonner. Maintenant, le péché, ce que le péché a fait entre Dieu et l'homme, c'est nous séparer de lui. Nous couper, couper les ponts entre Dieu et nous. Il a fallu une tierce personne pour nous réunir entre Dieu, pour réunir Dieu et l'homme. Parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus-Christ est la seule personne pour réconcilier Dieu avec sa création. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 16, je vous lis à la version Sommeur, il écrit ceci, « Il voulait, Dieu voulait aussi réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Nous étions de ses ennemis. Et Dieu nous réconcilie par Jésus-Christ. Pour cela, il va donner sa vie comme rançon pour payer la dette de notre péché. C'est parce que vous croirez en Jésus-Christ. C'est parce que vous croirez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que vous serez sauvés et que vous retrouverez la présence de Dieu. Et enfin, pour terminer, j'avais oublié ce point 5, pour terminer, la foule va trouver autre chose d'étrange. C'est un homme qui connaissait leurs pensées. Un homme qui savait lire, qui a su lire dans les pensées des hommes. Verset 22, Jésus connaissait leurs pensées. Pendant qu'il raisonnait intérieurement, le Seigneur lisait dans leur cœur. Je vous rassure, je ne sais pas lire dans vos pensées. Je ne saurais pas le faire. Et heureusement que personne ici ne savent le faire. Mais dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 13, il est écrit ceci. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est vrai. Quelle que soit la décision que vous allez prendre à la fin de ce message, le choix que vous allez faire, il connaît, il sait, il connaît nos pensées et vos pensées. Mais moi, il est question de rendre compte, je devrais rendre compte à ce message, ce partage. Mais chacun de nous aussi devront rendre compte pour le choix à faire. Mais il nous demande de choisir, et la décision nous appartient, choisir entre quoi et quoi, choisir entre la mort et la vie. Décision vous appartient, mais ce que Dieu veut. Parce que Dieu vous aime, il souhaite que vous choisissiez la vie. Nous vous en supplions, comme il est écrit ceci, soyez réconciliés avec Dieu. C'est vrai. La vie, nous ne connaissons pas quand elle terminera. Cela peut être ce soir ou demain ou dans 10 ans. Mais faire la paix avec Jésus aujourd'hui et pas demain n'est pas une option facultative. Il y a urgence de faire la paix avec Dieu, c'est aujourd'hui ou jamais. Pour terminer, en conclusion, lorsque la foule rencontre Jésus, certains seront soulagés parce que Jésus guérit et même nourrit la foule, leur fait du bien, enseigne. Ils entendent de belles choses comme peut-être ce soir. Certains seront et resteront étonnés, effrayés, émerveillés, verront que c'est quelque chose d'étrange. Et vous, ce soir, êtes-vous étonnés d'entendre parler de Jésus-Christ en 2018, ou au contraire. Peut-être êtes-vous conscient, en y réfléchissant juste un tout petit peu, qu'il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Et ce Jésus, ce n'est pas entendre un bon message, mais c'est de rencontrer, faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Au travers de sa parole, oui, mais au travers de moments privilégiés que je passe avec lui. Mais allez au bout de votre démarche. Et même s'il y a des obstacles, il y en aura des obstacles. Poussez les obstacles. Même s'il faut passer par le toit, allez-y. Allez jusqu'au bout de votre démarche. Faire la paix avec Jésus, demandez-le lui, au travers d'une prière. Sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur, je péris. Ma vie, au fond, est bien désordonnée et je ne m'en sors pas. Les autres ne savent pas ce qu'il y a dans mon cœur parce qu'ils ne peuvent pas lire mes pensées, mais combien je suis malheureux au fond de moi-même. À travers d'une simple prière, demandez-le-lui et il le fera. Nous l'avons chanté, tu peux naître de nouveau, repartir à zéro, balayer la vie passée. Comment ? Comment ? Avec Jésus pour berger. Amen.